Rica sera également très utile. Merci d'avance. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par dire que ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment nous pouvons tirer profit de la mobilité humaine pour renforcer les capacités, pour aider les gouvernements qui sont en première ligne, mais également les communautés, les personnes, pour éviter que ces catastrophes naturelles, qu'elles soient soudaines ou alors à progression plus lente, donc pour éviter que ces catastrophes humanitaires ne se transforment en crise humanitaire majeure. Et je crois que c'est là l'essentiel parce que, en fin de compte, nous savons que les catastrophes naturelles continueront à se produire et notre tâche consiste à voir comment nous pouvons éviter, comme le secrétaire général de la FIRC l'a dit, donc comment nous pouvons éviter que ces crises ne deviennent des catastrophes humanitaires majeures. Et j'aimerais rebondir sur votre question et traiter des vulnérabilités qui accompagnent ces catastrophes.
La vulnérabilité au risque de catastrophe et la résilience pour y faire face sont toutes déterminées par un jeu déterminé par les individus, les communautés, mais aussi des facteurs économiques et politiques et géographiques dont il faut tenir compte, par exemple la classe, le genre, l'âge, les religions, l'appartenance culturelle ou ethnique, les intérêts, l'exposition des personnes et les vulnérabilités et la résilience. Habilité à faire face aux catastrophes, et eh bien tout cela joue un rôle essentiel pour déterminer les opportunités des personnes afin de réagir à ce type de situation. Leur état de santé, l'éducation pour pouvoir être informés, à quel point ils sont bien représentés dans leurs institutions pour pouvoir y avoir accès et quel est le degré d'efficacité de cet accès dans la réalité. Je pense qu'il est important de reconnaître que les aptitudes individuelles à mieux influencer ou prévenir ou améliorer la préparation à ce type de conditions est absolument essentielle à leur résilience. Par exemple, un manque de sensibilisation autour des plans d'immigration, système d'alerte précoce, atténuation des risques et stratégies afférentes, bien tout cela a des véritables conséquences sur la vulnérabilité individuelle au danger. Donc alors, comment peut-on équiper notre population pour que celle-ci soit prête à répondre? Voilà, c'était ma première chose. Deuxième chose, ces groupes qui sont les plus vulnérables. Je vais en citer quelques-uns, mais la liste est loin d'être exhaustive. Par exemple, les migrants et surtout ceux qui sont en situation irrégulière. Eh bien, ce sont eux qui sont parmi les plus touchés lorsqu'il y a crise. En général, le problème est qu'ils manquent de sensibilisation, ils ne sont pas informés des dangers, ils ont un accès réduit aux réseaux sociaux. Et souvent, ils se heurtent à des barrières juridiques, culturelles, linguistiques qui les empêchent d'avoir accès à des informations de redressement. Donc, ils sont, si vous voulez, un petit peu à l'extérieur du principal canal d'information. Ils sont souvent dans des endroits mal aménagés pour faire face aux défis et leur accès aux services fondamentaux de base sont limités. Et très souvent, ils se trouvent dans les zones les plus vulnérables lorsqu'il y a catastrophe. Mais il y a également d'autres groupes, d'autres catégories à fort risque. Par exemple, les personnes pour lesquelles il n'y a pas de diversification de moyens de subsistance, et d'ailleurs cela a déjà été énoncé particulièrement lorsque le moyen de subsistance est associé à la culture, l'exposition aux catastrophes telles que les inondations ou les sécheresses sont particulièrement marquées. Et tout dépend aussi des conditions préexistantes, c'est-à-dire quel est le degré de pauvreté et de marginalisation déjà à l'œuvre. Il y a un certain nombre de groupes de population. Il y a par exemple les communautés qui ne sont pas capables de sortir. Et il y a ceux qui n'ont pas les moyens financiers ou sociaux pour sortir, pour investir dans d'autres moyens de subsistance à mesure que le changement climatique s'accroît, et cela s'implique surtout pour les types de catastrophes à déclenchement lent. Puis il y a aussi les petites îles, et là nous avons entendu un excellent exposé, très complet, les petites îles, les petits états insulaires en développement, les pays les moins avancés et les pays enclavés. Tous sont dans une situation particulière, l'ambassadeur en a déjà parlé, exposition accrue aux dangers, l'impact accru du changement climatique, accès limité à des ressources pour réagir à ces défis et impact sur la population. Troisième chose, tous ces défis et ces risques sont également déterminés par des choix de mobilité. C'est-à-dire qu'une mobilité non planifiée et non gérée a souvent pour conséquence une nouvelle gamme de risques personnels et de vulnérabilités personnelles. D'autre part, une bonne planification du mouvement des individus peut véritablement aider les gens à préserver, avoir accès aux ressources et peut contribuer au redressement suite à l'adversité. L'assistance en cas d'évacuation, un programme en la matière ou alors simplement utilisation des mouvements régulés. Le fait est que un mouvement réglementé ou régulé permet d'améliorer la possibilité des personnes d'avoir accès à un moyen de subsistance et à revenir à une vie selon que les conditions le permettent. À cette fin, afin de réduire les déplacements, nous devons atténuer les conséquences négatives des déplacements pour les personnes et des autres personnes touchées, c'est-à-dire les communautés, les individus, les autorités doivent vraiment fournir la capacité nécessaire pour faire ce type de choix stratégique avant, pendant et après ces catastrophes. Et nous, en tant que collectif, nous devons vraiment tous œuvrer dans ce domaine. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de domaines qui sont communs à ce qui a été dit plus tôt. La coopération, c'est le mot d'ordre, et je vais y revenir lors de notre prochaine discussion.